Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours sur Europe 1, entre 16h et 18h, nous vagabondons. Nous vagabondons à proximité, dans l'un des plus beaux pays du monde, la France tout d'abord, de 16h à 17h. Et puis plus loin, autour du monde, entre 17h et 18h, nous irons tout à l'heure au Maroc. Nathalie,
oui.
La Normandie, c'est notre sujet du jour. Donc évidemment, vous vous êtes intéressée à l'histoire et au débarquement.
Oui, et notamment un animal, enfin plutôt un pigeon qui s'appelait Gustave et qui a transmis...
C'est lui là ?
Oui, enfin les descendants de Gustave. Parce que Gustave, il a transmis un message capital, absolument capital aux alliés. Il a changé le cours de l'histoire. Alors... Tout commence pendant la Première Guerre mondiale et non
Gustave,
pas pendant la Deuxième. Oui, Gustave, s'il te plaît, c'est un peu... Bon. Alors, quand les forces britanniques donc ouvrent une section spéciale de l'armée qui s'appelle le National Pigeon Service, c'est-à-dire le NPS.
Non, mais ça existe vraiment, le National Pigeon Service ?
C'est-à-dire qu'en fait, les forces britanniques sont convaincues de l'utilité des pigeons pour envoyer des messages stratégiques. Donc, les pigeons voyageurs, évidemment, dressés, retournent sur leur lieu de départ sans risque d'être interceptés, contrairement aux messages radio.
Et Gustave, il avait déjà du service ?
En 1914, ah non, il n'était pas encore sorti de l'œuf. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, en revanche, il y avait des pigeons qui étaient formés à Thorney Island dans les îles britanniques. Et leur objectif, c'était donc d'assurer des missions classées top secret. Et Gustave a été donné, comme beaucoup d'autres pigeons, par un agriculteur à ce service et donc entraîné à des opérations militaires. À 8 semaines, Gustave a suivi une formation de haut vol, enfin c'est le cas de le dire, au NPS. Il avait un joli petit nom de code, hein. C'était 43-31-066. Il a été rebaptisé Gustave, c'était quand même plus convivial.
Bah oui, c'est plus sympa. Alors qu'est-ce qu'il a fait Gustave ?
Alors... Le 6 juin 44, le brave Gustave, il embarque sur un navire spécialisé pour les opérations amphibies au large des côtes normandes où il attend d'être lancé en vol par le correspondant de guerre.
Ouais.
Parce qu'en fait, il est chargé d'annoncer l'imminence du débarquement aux forces britanniques en retournant à la base militaire de la Royal Air Force. Il accomplit un voyage de 240 km, un parcours périlleux avec des vents contraires, des tirs ennemis, des conditions météorologiques hostiles. Et au bout de 5 heures et 16 minutes précisément, il parvient enfin à la base militaire pour y délivrer le message suivant. Nous sommes à environ 25 km au large des côtes. La première vague d'assaut a débarqué à 7h50. Les communications venant des plages indiquent que les tirs ennemis ne gênent pas les opérations depuis 5h45. Aucun avion ennemi décelé. Alors, son action à Gustave, elle est saluée par les plus hautes autorités. Et en novembre 1944, on lui remet une médaille.
Ah bon ?
Bien sûr, la médaille. Oui, un pigeon, la médaille Deakin.
Mais est-ce qu'il a conscience de ce qu'il a fait, vraiment ?
Je pense qu'un pigeon n'a pas beaucoup de cervelle. En même temps, pour faire 240 km sans se faire shooter, moi je dis bravo Gustave. Donc il a eu cette décoration incroyable. Malheureusement, Gustave a mal fini. J'aime bien les histoires qui finissent mal. Mais il n'a pas fini...
Avec des petits pois.
Oui, c'est ça, non. Il n'a pas fini non plus au tir au pigeon. Après avoir reçu tous les honneurs, il est mort écrabouillé. Et l'histoire raconte qu'on lui aurait marché dessus accidentellement, bien sûr, en nettoyant sa cage.
Oh, le destin. C'est pitoyable. c'est triste.
Mais on ne l'a pas mangé après.
Ah bon ?
Non.
Mais une fois écrasé.
Bon. Vous avez d'autres histoires d'animaux comme ça ?
Oui, j'en ai une autre.
Qui finissent bien ?
Oui. Alors, c'est avec... Vous reconnaissez Bourville, hein ? Ah, dada. Là, c'est avec le cheval. Parce qu'en fait, la Normandie, c'est la première région de France pour l'élevage de cet animal prestigieux. 115 000 équidés et plus de 12 000 naissances par an. Autant vous dire, vraiment la première région de France. Alors, comme les vaches, hein, le cheval est profondément ancré dans le terroir normand. C'est vraiment indissociable de son image. Il est partout, presque, là où il y a de l'herbe. Parce qu'en fait, le cheval, il se plaît, hein, Philippe, dans un climat doux et humide, dans les bocages. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lieux qui sont dédiés pour son élevage. Des haras, le célèbre haras du Pin, le haras de Saint-Lô. Le premier qui est créé pour l'élevage royal par Colbert au XVIIe siècle. Il y a des fermes, des exploitations avec des centres équestres, des hippodromes, la reproduction, la vente.
Pourquoi dans cette région particulièrement ? Parce que ça peut, c'est valable dans beaucoup de régions. Ça.
C'est valable. Vous allez voir pourquoi. Et justement, il est lié plus particulièrement à l'histoire de Deauville et au développement et au rayonnement de cette ville. Parce qu'au 19e siècle en France, vous savez, c'est une période très intense de fondation de stations balnéaires. Au départ, c'est Dieppe, puis ensuite c'est Trouville. Et Deauville, elle n'existe pas. Et puis en 1859, le duc de Morny, qui est le beau-frère de Napoléon III, il s'associe avec deux personnes, un médecin et un banquier. Ils investissent dans 240 hectares de marais, ils les font drainer. C'est d'ailleurs le lieu de Deauville. On va d'ailleurs surnommer Deauville Morniville, hein, à cause de ce duc de Morny. Et donc, entre 1860 et 1864, Deauville sort littéralement des sables, financé par ces trois hommes. On construit un bord de mer, une zone résidentielle de luxe avec le casino, une zone mondaine avec l'hippodrome et une zone d'activité le long de la Touques. La Touques, c'est ce fleuve hein, côtier qui se jette dans la Manche entre Deauville et Trouville.
Ça veut dire que Deauville, c'est un projet immobilier construit de toutes pièces.
De toutes pièces, absolument sorti des sables et des marais, absolument.
Ah, et alors pourquoi un hippodrome tout de suite ?
Eh bien en fait c'est la recette du succès hein, dans une grande station balnéaire ou thermale. Vous vous souvenez, on a vu ça avec Vichy, hein, on en a déjà parlé. C'est la trilogie casino, chevaux, dodo, enfin si je puis dire, dodo avec des femmes entretenues bien sûr. Et le cheval...
Vous avez une vision des loisirs qui m'épate quand même.
Non,
toujours.
J'ai une vision de la belle époque et des années folles qui est bien celle de la réalité,
non, mais
je
Nathalie,
vous assure.
Nathalie, j'ai une question, les chevaux des étalons
à monter en Amazon, mon cher Jean-Bernard, forcément. Le cheval, c'est aussi une histoire de grande fortune, une histoire d'aristocrate. Et d'ailleurs, c'est pas un, mais deux hippodromes qu'il y a à Deauville. Il y a eu l'hippodrome de la Touques et puis des années plus tard, l'hippodrome de Clairefontaine. Donc finalement, c'est vraiment un rendez-vous très important pour le cheval depuis toujours. Ça attire les meilleurs chevaux et les meilleurs jockeys du monde. Et même l'aéroport de Deauville, c'est le premier en France pour le transport des chevaux grâce à des infrastructures spécifiques et une rampe d'accès spéciale pour eux.
Ah, c'est marrant ça.
Ah, c'est incroyable.
Quelle histoire, que d'histoire, Nathalie. Merci beaucoup.